Découverte, initiative écologique, parlons nature. Une émission de Résonance Sonore.
Pour ce quatrième épisode intitulé « L'abeille sentinelle de l'environnement » de notre série « L'abeille si mystérieuse », nous sommes toujours avec Aurore Avargues-Weber, qui est chercheuse en neurosciences cognitives et éthologue au CNRS à Toulouse et qui travaille en particulier sur les abeilles. On dit souvent que l'abeille est travailleuse. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on projette sur les abeilles ? Est-ce que toutes les abeilles sont travailleuses ? Est-ce qu'elles méritent vraiment cette réputation-là ?
Oui, alors ça vient bien sûr du fait que lorsqu'on regarde une ruche, on a l'impression que ça grouille d'activité, que c'est une activité permanente. Il est vrai que pour faire un tout petit peu de miel, il faut visiter des centaines et centaines de fleurs. Donc effectivement, c'est un gros travail. Mais c'est un travail qui est fait par le collectif. Et donc chaque abeille individuellement ne travaille pas nécessairement tout le temps jusqu'à... Et on se rend compte quand on les suit individuellement, ce qui n'est pas un travail facile, mais quand on suit l'activité de chaque abeille, on se rend compte qu'à un instant donné, par exemple, il y a à peu près 30% des abeilles qui ne vont rien faire dans la ruche. Donc comme on essaie d'être un peu positif vis-à-vis des abeilles qu'on considère comme travailleuses, on se dit mais c'est parce que ça nous permet d'avoir un réservoir abeille, c'est-à-dire que si jamais il y a une attaque ou si d'un coup il y a une sécheresse ou que d'un coup il y a vraiment un gros besoin pour la ruche, ben, ces individus comme ils ne sont pas occupés, ils vont être disponibles tout de suite. Donc effectivement j'entends ça, après on peut tout simplement que ces individus ils ont juste envie de rien faire, c'est aussi tout à fait possible, surtout qu'on se rend compte que voilà, lorsqu'on compare un individu à l'autre, donc là c'est sur un instant donné, mais quand on compare au cours de leur vie, il y a certains individus qu'on appelle élites qui vont vraiment travailler beaucoup et d'autres qui ne font jamais rien.
En fait, il y a des individus chez les abeilles qui ne travailleront jamais, c'est ça ?
Qui travaillent très très peu, quoi, qui vont vraiment faire...
Tout au long de leur vie,
voilà, tout au long de leur vie,
elles
sont particulièrement...
Elles ne font pas partie du processus du
voilà,
cycle
de vie. Voilà, elles vont faire un peu travailler, mais du coup, peut-être 10% de leur temps, voilà, elles font beaucoup de repos.
Ok. J'aimerais qu'on parle de la pollinisation, en fait, des abeilles. On dit qu'elles ont un rôle important pour l'environnement. Ça, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Oui, alors les abeilles, ce sont des insectes pollinisateurs, effectivement. Donc tout simplement parce que lorsqu'ils vont rentrer dans les fleurs pour aller récupérer le nectar, il y a le pollen qui va se coller sur leurs poils, elles récoltent aussi du pollen. Donc elles vont en garder une partie parce qu'elles ont besoin de nourrir les larves avec le pollen. Le pollen apporte les protéines alors que le nectar apporte les sucres. Mais juste une petite partie. Et en fait, après, lorsque, comme elles sont obligées de butiner plein de fleurs pour se remplir l'estomac et rentrer, le pollen qu'elle va récupérer sur cette première fleur, il va se déposer sur la fleur suivante. Et donc, elle va permettre comme ça le transfert des gamètes mâles, parce que du coup, voilà, le pollen, c'est les cellules reproductrices mâles, sur les cellules reproductrices femelles, qui donc sont le pistil des autres fleurs. Et donc, va permettre comme ça l'échange de flux génétiques et éviter une auto-reproduction des fleurs, et donc une meilleure survie, une meilleure adaptabilité des fleurs. Donc, elles ont un rôle très important, parce qu'en gros, toutes les plantes à fleurs se font reproduire la plupart du temps par des pollinisateurs. Donc attention, il n'y a pas que les abeilles à miel, il y a une infinité de pollinisateurs. Donc déjà, il y a plusieurs centaines d'espèces d'abeilles rien qu'en France, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il y a aussi des coléoptères qui vont se reproduire. Il peut y avoir aussi le vent, parfois tout simplement. Mais tout un tas d'insectes, en fait, voilà, peuvent servir de pollinisateurs. Et donc l'impact de l'abeille en particulier, c'est vrai qu'il est important, tout simplement, parce que comme on élève les abeilles, on en a beaucoup. Et donc, évidemment, elles font un pourcentage assez important de la pollinisation, surtout que les abeilles, elles ne sont pas du tout spécialistes sur une fleur donnée. Elles peuvent aller sur beaucoup, beaucoup de fleurs, donc elles ont un rôle large et important, contrairement aux autres pollinisateurs qui, assez souvent, sont spécialistes sur certaines fleurs.
Est-ce que si elles sont amenées à disparaître, ça met vraiment l'humanité en danger, comme on peut l'entendre
Alors oui, parce que ce que l'on dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'abeille, juste cette espèce-là, peut-être pas, parce que je disais qu'il y a tout un tas d'autres espèces qui servent de pollinisateurs, mais en fait, ce que l'on dit, c'est que l'abeille, elle sert de sentinelle de l'environnement. Pourquoi ? Parce que déjà, l'abeille, ce sera la dernière à disparaître. Tout simplement parce qu'il y a des apiculteurs qui s'occupent d'elle, déjà. Ensuite, parce que finalement, c'est une espèce, comme elle est sociale, elle est très adaptable, et c'est aussi une espèce qui est opportuniste, qui mange tous les types de fleurs. Donc en fait, elle va sûrement survivre bien plus longtemps que tous les autres pollinisateurs dont je vous parlais. Et donc on l'appelle sentinelle parce que justement on la suit. C'est une espèce que tout le monde connaît, et surtout on a des apiculteurs qui nous disent ben, « cette année j'ai perdu 30% de mes ruches, la 10, etc. Et » Et l'abeille, comme elle est intelligente, qu'elle a besoin de beaucoup de son cerveau, elle est très sensible aux perturbations de l'environnement. C'est-à-dire, ben, les pesticides, en fait, ils interagissent avec le cerveau. Et donc, même si elle ne meurt pas directement, ben, après, elle a du mal à se repérer dans l'environnement, elle a du mal à faire des choix, et donc, évidemment, ça diminue. Mais elle va être sensible aussi aux pollutions, les métaux lourds, etc. Elle va être sensible au manque de biodiversité dans les plantes, parce que si elle mange que du colza, ben, c'est comme nous, en fait, elle va manquer de nourriture riche pour développer son cerveau. Et donc, en fait, assez facilement, l'abeille va être sensible aux perturbations de l'environnement que les apiculteurs vont nous rapporter et qui nous donne en fait une idée de l'état de l'environnement. Et donc en protégeant les abeilles, en fait, on protège les autres aussi, parce que ce qui est bon pour les abeilles est bon pour tout en fait, l'écosystème de nos campagnes.
Une dernière question. Est-ce qu'on peut dire que l'abeille pense? Est-ce qu'on peut dire qu'elle réfléchit?
Ça, c'est une question plus philosophique que scientifique. Pourquoi je dis que c'est philosophique? Parce qu'en fait, on n'a pas accès avec des outils scientifiques à cette question. Donc, on ne peut pas y répondre. On a juste des indices. Et donc, notamment, un des indices, c'est de dire qu'elle a une espèce de représentation mentale. C'est-à-dire que ce que l'on peut voir, par exemple, je vous donne un exemple assez concret, on peut imaginer une image qui est brouillée, avec un camouflage, par exemple. Donc, on va la présenter au départ à l'abeille. Elle ne va rien comprendre de cette image. Mais si dedans est camouflé, par exemple, un triangle, et qu'avant, on lui a appris à reconnaître le triangle, là, elle va le percevoir dans le camouflage. Et donc ça nous donne l'idée qu'en fait, sa représentation du monde évolue en fonction du temps, et qu'elle avait une image de recherche. Elle était en train de chercher un triangle, ce qui lui a permis de le voir. C'est quelque chose que nous aussi, on a. Ça, c'est un exemple. Après, on sait qu'elles ont une espèce de forme d'émotion, par exemple. C'est-à-dire que si elles ont eu un stress important ou au contraire, elles ont eu une découverte positive importante par une zone de nourriture inattendue, elles vont changer leur comportement au cours du temps. Donc, soit elles vont être aversives aux risques, elles vont éviter de prendre des risques, elles vont plutôt se cacher, elles ne vont pas trop bouger, ou à l'inverse, être très exploratives, très expansives. Donc, on a ce genre de truc d'émotion. On sait maintenant qu'elles ont des concepts de nombre, de hasard qu'elles peuvent reconnaître. Donc, tout ça nous dit qu'en fait, elles commencent à cocher beaucoup de cases de ce que sont capables les vertébrés aussi. Mais de là à aller jusqu'à dire qu'elles ont une vraie pensée, etc., le problème, c'est que je ne suis même pas capable de dire que le cheval a une pensée, en fait. Je ne peux pas le démontrer scientifiquement. On en fait une hypothèse forte, parce qu'on a beaucoup de présomptions qui vont dans ce sens-là, mais on n'a pas la preuve.
Un grand merci, Aurore, pour ce dernier épisode et vos lumières sur l'abeille et notre environnement. C'était le dernier épisode de notre série « L'abeille si mystérieuse » avec Aurore Avargues-Weber, réalisée par Marie Cheneval.
C'était « Parlons nature », une émission de résonance sonore soutenue par la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.